Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 21 août 1989 à Saint-Jeudard.
Le soir, étant donné que vous êtes fatigué de l'effort de la journée, je verrai avec vous ce que représente le point de vue d'une théologie mystique, puis on verra un aspect de ce mystère par rapport au Christ. J'ai dit un aspect. Ce matin, je vous ai rappelé les conditions nécessaires pour qu'il y ait une pensée théologique qui recherche la vérité. Et je crois que c'est important de bien préciser tous ces éléments, ce qui montre la complexité d'une pensée théologique. Ce n'est pas simple du tout. Et qu'on revient toujours aux deux sources. D'une part, la foi vivante qui se nourrit de la parole de Dieu, et qui est sous la dépendance de l'Esprit Saint par le don de sagesse et le don d'intelligence. Et puis l'intelligence humaine. L'intelligence humaine qui avance, qui progresse pour écarter toutes les erreurs possibles. Puisque quand notre intelligence est marquée par des erreurs, les erreurs actuelles, les idéologies athées par exemple, ou une pensée trop idéaliste, notre intelligence ne peut plus être pleinement au service de la foi. Et donc elle ne peut pas coopérer pour donner comme fruit une pensée théologique. Il faut bien saisir cela. Puisque la théologie est une pensée complexe, la théologie acquise, la théologie de la somme de saint Thomas, la théologie de saint Bonaventure, de saint Bellarmin, du père Chenu. Je l'ai mis à côté des saints, vous voyez. Et de Karl Rahner, ou de tel ou tel théologien que vous aimez. Urs Balthasar. La théologie d'aujourd'hui devait, de fait, se développe dans des perspectives diverses. Ça a toujours été comme ça. Regardez l'article « Théologie » dans le dictionnaire de théologie catholique, qui est un article au point de vue information qui est intéressant, écrit par le père Congar, qui nous montre qu'il y a eu des modalités extrêmement diverses de la théologie. Je crois que tout a été tenté, jusqu'à une théologie qui assume les mathématiques. Les pères jésuites avaient demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. Et Descartes a commencé cette nouvelle théologie en faisant un traité sur l'Eucharistie. Puis ça s'arrêtait là, parce que ça n'allait pas tout à fait dans le sens de la vérité et de la tradition. Alors on lui a dit de s'arrêter, il valait mieux. Mais c'est intéressant de voir tous les efforts d'aujourd'hui. On a presque, chaque théologien a sa théologie aujourd'hui. parce qu'on cherche plus l'originalité que la vérité. Alors, le jour où on cherche l'originalité, c'est un point de vue purement subjectif, en fonction de tel ou tel contexte. C'est la question des méthodes aujourd'hui. Je sais bien, quand une thèse est présentée en faculté de théologie, on regarde avant tout la question de la méthode, pas la question du contenu, et pas la question de savoir si l'Église accepte ou pas. Ça a été même posé en conseil théologique, conseil de faculté de théologie. Est-ce qu'on doit refuser une thèse, même si elle est très bonne, au point de vue méthode, si elle aboutit à une conclusion qui est contraire à l'enseignement actuel de l'Église? Moi, ça me semble une évidence absolue, mais ça a été posé. Heureusement qu'il y a eu quand même un certain nombre qui étaient suffisamment théologiens pour dire « mais non, quoi ?» Alors qu'on aille à Berne, et quand on dit ça à Fribourg, c'est-à-dire qu'on va à Berne, c'est la faculté de théologie des réformés, ou des vieux catholiques. Alors, j'essaie de comprendre comment la théologie qui s'appuie sur la foi et qui se sert de la philosophie va de fait nous donner divers, va se développer de fait de façon assez diverse. Alors je vous donne les quelques orientations qui me semblent principales. La théologie biblique, c'est un fait. C'est très difficile du reste à préciser. Parce que là encore, il faudrait être exégète et théologien pour bien préciser. Et un peu, la théologie biblique dépend un peu des exégètes qui souvent ont abandonné un peu leur théologie, parce que les études exégétiques sont tellement prenantes. On exige tellement de ceux qui s'y préparent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps de faire beaucoup de théologie, malheureusement. Ils retiennent des exégètes, des spécialistes, serviteurs du théologien, lui-même serviteur de l'Église. Théologie biblique. Théologie scientifique. Celle de saint Thomas, je mets entre parenthèses saint Thomas, la somme. Thomas veut nous donner une théologie scientifique. Théologie, qu'on a appelée souvent, aujourd'hui on le dit moins, positive, j'aime pas du tout le mot. Parce que la théologie scientifique, on l'a appelée théologie dogmatique et morale. En réalité, pour saint Thomas, c'est la théologie scientifique. Mais le jour où l'aspect scientifique n'était plus suffisamment net, alors il y a eu deux orientations. Il y a eu des chaires de théologie morale, des chaires de théologie dogmatique. Théologie positive, vous voyez, c'est tout l'aspect de l'histoire. Théologie mystique ou théologie spirituelle. Alors, personnellement, on se trouve devant ça, c'est un fait. C'est un fait. Avec des orientations très différentes dans la dogmatique, des orientations très différentes dans la morale, mais au fond, on trouve, en gros, on trouve ce point de vue-là, avec encore une fois des tas de... Alors, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je vous donne le résultat de la réflexion, parce que ça durera un peu trop longtemps. on y passerait la nuit, n'est-ce pas? La philosophie qui est au service de la théologie, elle-même a des modalités très différentes. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être essayer de comprendre les divers développements que nous pouvons avoir, non pas en regardant le point de vue strict de la philosophie, mais regardez le mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu implique un développement, une histoire. On ne peut pas le nier. La révélation s'est donnée à travers une histoire. L'alliance première avec le peuple de Dieu. Et cette histoire continue avec l'Église. Donc, deux développements. La parole de Dieu implique un enseignement. On ne peut pas le nier. La parole de Dieu est une semence. Semence de vérité. La parole de Dieu est liée à des gestes, ou la révélation plus exactement, des gestes et des personnes. Voyez, faites l'analyse au niveau de la foi du mystère de la parole de Dieu. Vous pouvez pas nier qu'il y a ces diverses modalités. Elle est donnée dans une histoire, l'histoire sainte. L'Église continue de développer la parole de Dieu. Puisque l'Église est comme la bonne terre. Qui garde la parole de Dieu. Et qui la fait fructifier. Implique une croissance, c'est pas. Il y a toute une croissance. Et il y a des étapes dans cette croissance. À quelle étape sommes-nous? La parole de Dieu implique un enseignement. Dieu nous enseigne comme un maître, il nous enseigne. Et puis, la parole de Dieu, au-delà de la parole de Dieu, dans la révélation, il y a la parole et les gestes et les personnes. Dieu nous enseigne à travers Abraham. Dieu nous enseigne à travers le sacrifice d'Abraham, les sacrifices, les gestes. Il y a toute une geste de Dieu. Voyez, le premier chapitre de la Genèse, c'est très net. Il y a la parole et les gestes. Et de temps en temps, les gestes l'emportent sur la parole. Et de temps en temps, la parole l'emporte sur les gestes. À travers toute l'Écriture, vous trouvez gestes et paroles et personnes. De fait, bon, je crois que ça, nous pouvons tous être d'accord là-dessus. S'il y a des questions là-dessus, vous les direz lorsque vous retrouverez. Mais c'est intéressant à noter. Par le fait même, si la foi en la parole de Dieu et dans les gestes, puisque c'est la révélation, nous est donnée, notre intelligence, notre foi, au service de la révélation, de la foi, va se développer de diverses manières. Je crois qu'on aura ici de la vie biblique. Il me semble bien que la note dominante de la théologie biblique, c'est de montrer comment la parole de Dieu se développe dans les divers contextes. Comment il y a toujours révélation sur Dieu et révélation sur l'homme. Et une théologie biblique implique des étapes. Il y a théologie de l'Église. Et qui correspond. Vous voyez bien, c'est facile à voir. Je développe, dans la théologie de l'Église, je développe la manière dont l'Église va progressivement découvrir toute la richesse de la parole de Dieu, semence de gloire. L'histoire des dogmes, ça fait partie de l'histoire de la théologie de l'Église. L'histoire des institutions. Dans la théologie des sacrements, la manière dont l'Église a pris possession, du moins a découvert progressivement, les sept sacrements. Et ainsi de suite. C'est un développement autre que la théologie biblique. Théologie, alors, scientifique, c'est l'enseignement. Rechercher l'intelligibilité la plus grande de l'enseignement de Dieu. Et puis, théologie mystique. J'aime mieux dire théologie mystique que théologie ascétique et mystique. Théologie mystique qui regarde les gestes et les personnes. Personne peut impliquer un don. Les gestes montrent quelque chose. C'est impressionnant de voir que dans le développement de la théologie, on a laissé tomber, presque toujours, cet aspect symbolique, sauf chez les pères. Sont les gestes et le don des personnes. Tout certain aspect symbolique. C'est beaucoup moins précis que la théologie scientifique, mais ça a une richesse très différente. Je crois que là nous sommes en présence d'une structure propre à la théologie. Que c'est impliqué dans le mystère de la révélation. La révélation implique parole, implique geste. La révélation implique une histoire, elle implique des personnes. Elle implique un enseignement. Et dans l'Église, il y a quelque chose de très particulier. Puisque l'Église, j'allais dire, elle se développe de l'intérieur. Vous voyez ? L'Ancien Testament est téléguidé par les prophètes. L'Église, elle est comme un grand vivant qui se développe de l'intérieur. C'est le vivant, l'Église. Il y a une espèce d'autonomie. Tandis que dans la première alliance, c'est beaucoup plus embryonnaire. C'est bien de l'intérieur, mais avec toujours un aspect extérieur, beaucoup plus visible. Et pourquoi nous n'avons plus de prophètes comme dans l'Ancien Testament? Et c'est très significatif quand on essaie de comprendre le gouvernement de Dieu. Donc, le gouvernement de Dieu. Théologie de l'économie divine, ce que le Concile Vatican II demande, qu'on ait une théologie de l'économie divine. Comment Dieu gouverne-t-il l'Ancien Testament? Comment Dieu gouverne-t-il l'Église? Et on voit tout de suite la très grosse différence. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une conduite sacerdotale. C'est beaucoup plus la loi, donc le législateur. Moïse n'est pas prêtre. Le législateur, la royauté, les prophètes et les prêtres, les lévites, sont au fond soumis. Ce qui me semble très particulier dans cette théologie de l'économie divine vis-à-vis de l'Église, c'est que l'Église est gouvernée par le Christ et donc par le sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ qui assume son aspect victimal. Et vous avez de fait le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal des fidèles. Et l'Esprit Saint joue sur les deux. De temps en temps, c'est le peuple de Dieu qui crie. De temps en temps, c'est les évêques. Alors, vous voyez bien, c'est gouvernement des deux. Et c'est toujours l'Esprit Saint, c'est toujours le Christ, en se servant. Et c'est toujours sacerdotal. C'est ça qui me semble tout à fait particulier. Sacerdoce royal, sacerdoce qui assume l'aspect prophétique, et c'est l'aspect sacerdotal qui domine. C'est pour ça que l'Eucharistie est le sacrement par excellence. À la différence de l'ancienne alliance. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Retenez au moins ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le point de vue de la théologie mystique. Et nous reviendrons demain, je vous le dis tout de suite pour que vous ne perdiez pas les pédales, n'est-ce pas, sur la théologie scientifique. Dans Saint Thomas. Je pense à Thomas parce que je juge qu'au point de vue théologie scientifique, on n'a pas dépassé saint Thomas. Si quelqu'un me dit sur quel point on a dépassé saint Thomas en théologie scientifique, je lui donnerai un prix d'excellence. On a dépassé des quantités de choses au point de vue théologie publique, théologie de l'Église, et théologie mystique, saint Thomas l'a pas faite, ou à l'état très embryonnaire. Ce que saint Thomas a fait, c'est ça. Ça a été tellement bien fait qu'après, des quantités de thomistes disent c'est ça la théologie. Mais non, la théologie implique tout ça. La théologie scientifique, c'est l'axe. Donc c'est très important. C'est l'axe. C'est pas tout. C'est pas tout. Donc vous voyez, il y a diverses manières d'être théologien. Évidemment, la théologie scientifique nous donne quelque chose, je crois, d'irremplaçable. Et la théologie publique nous donne aussi quelque chose d'irremplaçable. Et la théologie mystique aussi. Alors ça me semble très important aujourd'hui, de bien comprendre ça. L'aspect philosophique est beaucoup plus développé dans la théologie scientifique que dans les autres parties. Dans les autres parties, pour la théologie mystique, ce sera l'éthique qui sera beaucoup plus développée. Dans la théologie biblique, ce sera la théologie du devenir, ce sera la philosophie de la matière, donc du devenir. Et la théologie de l'Église, c'est la théologie du vivant. La philosophie du vivant. Oui, toutes les parties de la philosophie sont présentes ici, éthique et art. Parce que l'Esprit Saint agit en artiste avec les dons du Saint-Esprit. Il y a tout un aspect artistique qui nous aide à développer la théologie mystique, théologie symbolique. Or, c'est l'art qui nous fait comprendre ce que c'est que le symbole. Oui, alors ça, il me semble très important à bien voir. Dans la théologie scientifique, c'est la philosophie première, ce qu'on a appelé la métaphysique. C'est sûr. c'est normal, étant donné l'orientation diverse de la théologie, qu'on ait ces aspects différents. Et alors, ce qui est désastreux, c'est que de fait, il faut bien le dire, les disciples de saint Thomas, les plus donnés, ont développé uniquement cette partie-là. Maintenant, ça commence un tout petit peu à s'ouvrir. Alors, les autres parties sont développées presque en sept contrats, en opposition. Je me souviens, je ne dis pas des noms, mais quand j'enseignais au Sautoir, je voyais très bien les exégètes. Bon, parler un tout petit peu de théologie biblique, mais ça les ennuyait. Ils aimaient mieux être uniquement des exégètes. Puis de temps en temps, on donnait un petit cours de théologie biblique. Alors que si on était vraiment parfaitement conscient, on comprendrait que l'exégèse, c'est un élément de la théologie biblique. C'est ça qui est intéressant. Et là, les protestants sont plus avancés que nous, très souvent. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre à leur école, on doit autre chose à dire, mais ils sont beaucoup plus avancés. Alors que la théologie biblique ne peut se développer parfaitement que si on a compris la théologie scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est subalterné, pas du tout. La source est directe, c'est la révélation, l'histoire du peuple d'Israël. La théologie de l'Église, nous la vivons. Où se situe dans la théologie de l'Église ? Vatican II. On comprendra parfaitement Vatican II que quand on le regardera dans le développement même de l'Église. Autrement, on le met en sept contrats. On oppose Vatican II, Concile de Trente. C'est faux. C'est un développement d'amour par l'Esprit Saint. La vie n'est pas dialectique. C'est un grand savant qui a dit ça. Mono. J'aime beaucoup cette affirmation. Parce que je suis d'accord. La vie, j'aime de l'entendre d'un savant comme Mono. La vie n'est pas dialectique. Oui. Et les théologiens continuent d'être dialectiques sur la vie. Ils devraient quand même écouter de temps en temps certains savants. Et la théologie mystique, alors, aussi, elle est plus proche d'une certaine manière. On passe plus facilement de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas du tout. J'aime beaucoup le père Garrigou-Lagrange, mais là je suis obligé, puisque j'aime le père Garrigou-Lagrange. Mais la vérité plus encore, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais l'oublier. Et le père Garrigou-Lagrange dit, la théologie mystique, ou la théologie spirituelle, c'est l'application des conclusions de la théologie scientifique à la réalité concrète. C'est tout à fait faux. Une conclusion de théologie scientifique est moins pratique que la foi. C'est pas pratique du tout, la théologie scientifique. Comme toujours les conclusions scientifiques, il faut revenir à la source, c'est-à-dire à la foi. La théologie scientifique donne l'habitus théologique, c'est excellent. Mais c'est pas pratique. On revient à l'écriture et on découvre une théologie immédiatement vivante et vitale. C'est ça la théologie mystique. De donner le sens profond de notre vie chrétienne. En nous servant de ce que disent les mystiques et en nous servant de l'écriture. Et évidemment, surtout et avant tout, de l'évangile de Saint Jean. Bon, maintenant je peux effacer. Le caractère propre de la théologie mystique, c'est d'essayer de tout comprendre à partir de la révélation « Dieu est amour ». Vous voyez, l'amour, la révélation de l'amour, se dit plus par les gestes que par les paroles. C'est vrai au point de vue humain, et c'est encore beaucoup plus vrai au point de vue divin. L'amour se révèle plus par les gestes, par la présence silencieuse, aimante, que par la parole. Le logos, la parole, se tait pour laisser passer le geste et la présence. La présence est encore un geste. C'est un geste substantiel, la présence. Parce que, vous voyez, quand vous donnez la main à quelqu'un, c'est un geste, c'est une présence. Normalement, quand vous donnez la main à quelqu'un, vous ne tournez pas le dos. Ah, bonjour. Ça se fait pas comme ça. Non. Quand vous saluez quelqu'un, ben vous êtes présent. La salutation du gamin de Paris et la salutation de l'Asiatique. Je voyais ça à Fribourg. Tous les étudiants français ont monté à l'université. Ils ont monté pour être à l'heure. Eux étaient un peu en retard, tu vois. Alors ils courent à toute vitesse. Ils vont dépasser en disant bonjour, bonjour. Très bien. Un Asiatique, quand on était proche de lui, il s'arrêtait et vous laissait passer devant. Oui. La salutation. C'est un geste, la salutation. C'est la présence. Diverses manières d'être présent. Quand vous dites à quelqu'un, vous êtes présent, vous dites bonjour, bonjour, et puis vous courez toute vitesse, la présence en prend un gros coup. C'est pas une présence. Alors je crois qu'il y a tous ces gestes de l'écriture qui sont merveilleux. Tout ce symbolisme de l'écriture qu'il ne faut surtout pas perdre. Et voyez, la philosophie moderne, elle met très en lumière, parce qu'elle est surtout une anthropologie, elle met très en lumière la différence de la parole et du geste. C'est Merleau-Ponty qui a mis ça très en lumière, moins chez Hegel. Mais c'est plutôt la philologie qui met ça en lumière. Et je crois que nous devons là être très attentifs à ce que représente le geste, la connaissance symbolique, la présence, qui, dans la théologie scientifique de saint Thomas, sont laissés tomber de côté. Parce que saint Thomas a une vision très nette de ce qu'il veut faire. Saint Thomas n'a jamais nié une théologie mystique. Jamais. Il n'a jamais nié une théologie symbolique, il le dit expressément, dans les commentaires des noms divins. Mais il savait qu'il devait faire une théologie scientifique, avec tout ce que ça représente d'abnégation, de pauvreté. C'est vrai, dans une théologie scientifique, le théologien disparaît. La vie de saint Thomas, à travers sa somme théologique, c'est pauvre, pas grand-chose. Saint Thomas dit très rarement « je dis ». Il le dit dans les questions disputées. Mais je crois qu'il ne le dit jamais dans la somme. « Je dis ». Il me semble que... Non, non. C'est très étonnant, ça. Dans les questions disputées, oui. Parce que les questions disputées, c'est plus de la philosophie. Alors, dans la philosophie, même une philosophie très poussée au plan spéculatif, le « je suis » est toujours présent. Tandis que dans la foi, votre « je suis », il est assumé par le « je suis » de Dieu. Le « je suis » du Christ. Et le théologien fait une théologie chrétienne. Donc il disparaît. Dans la théologie mystique, l'aspect subjectif est beaucoup plus présent. Pourquoi ? Toute la théologie mystique est commandée par Dieu est amour. Et et Dieu exprime son amour. C'est pour cela que une théologie mystique commence par le mystère du Christ crucifié et glorifié. Je crois que c'est le premier moment d'une théologie mystique. Le mystère de la croix et de la croix glorieuse s'achève dans le mystère de la gloire. Pourquoi? Parce que c'est à la croix où la révélation s'achève. La révélation du Fils bien-aimé. La gloire, avec les apparitions, vient confirmer le mystère de la croix. Vient montrer tout ce que le mystère de la croix dit. Mais c'est le mystère de la croix qui est la sagesse. La sagesse d'amour. C'est à travers la croix que je comprends le don de Jésus. Et la sagesse de la croix et le don du Christ se réalisent à travers des gestes, le geste du crucifié et les gestes du Christ glorifié. Il y a là quelque chose qui me semble très important à comprendre, ce premier moment. C'est toujours le premier moment, après c'est plus facile à développer. Mais tout est commandé par l'ordre. Et dans ce mystère du Christ crucifié et glorifié, sagesse d'amour, la grande manifestation d'amour, la grande manifestation d'amour, c'est le mystère de la croix, le don, la manifestation et le don. C'est ça la sagesse de la croix. Je crois. Le second moment d'une théologie mystique, je vous donne ce qu'il me semble. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dû enseigner la théologie mystique à Fribourg, en plus de la philo, ça je l'ai accepté. La théologie morale, c'était différent. Mais la théologie mystique, comme il n'y avait personne, on appelait ça le cours de théologie ascétique et mystique. Là, j'ai commencé par montrer. C'était de la théologie. Et que c'était vraiment le Christ crucifié et glorifié qui est au point de départ. Tout le mystère du Christ est vu de cette manière-là. Second moment, la prima part, si vous voulez, pour mettre des analogies avec la théologie scientifique, la seconda part, c'est le mystère de Marie. Croissance de l'amour, croissance de la foi et de l'espérance. Au point de vue pratique, nous avons besoin de la grande révélation de l'amour, Jésus, don et source. Mais aussi de comprendre comment il faut croître. Le comment est très important, le comment de la croissance. Et c'est Marie qui est le modèle de la croissance. Le Concile Vatican II l'affirme avec force. Le mystère de Marie au point de vue théologique. Et aucun autre concile ne l'a dit. À ce point de vue-là, le concile Vatican II nous donne une lumière extrêmement importante sur le mystère de la croissance de l'amour. Marie, modèle de la croissance. Troisièmement, nous sommes des convertis. Mystère de conversion. Les conversions qui se réalisent dans les luttes, dans les tentations. Conversion et tentation. Tout le mystère des luttes. Puisque cette croissance se fait dans des luttes. Là, vous voyez que là, nous avons, et nous aboutissons là, il faut voir s'il faut mettre ça en quatrième partie, le mystère de l'Église comme milieu, le milieu divin de cette croissance, de cette conversion, le milieu où se réalisent au fait les tentations. Je crois qu'il faut mettre conversion, tentation, lutte, et puis le milieu divin, l'Église. Un autre regard sur l'Église. Vous voyez, nous retrouvons toutes les parties de la somme théologique, mais dans un ordre tout à fait différent, commandé par le point de vue de l'amour. Et enfin, cinquième partie, le retour vers le Père, le Vado et Padre, le mystère de la très sainte Trinité. Retour vers le Père. Toute cette lutte, toutes ces conversions sont ordonnées vers la demeure du Père, la patrie, sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc, dans le mystère de la très sainte Trinité. Je crois que c'est la première partie d'une théologie mystique. Et la seconde partie, c'est de comprendre comment, dans l'Église, se développent les grandes spiritualités chrétiennes. Ici, c'est le Christ, c'est Marie, c'est Marie de Magdala, hein, la pécheresse convertie, on a un bel exemple. Les convertis qu'on voit dans l'Écriture, et dans les actes des apôtres. Et le milieu divin, c'est Pierre, mais vu comme milieu de croissance. C'est la hiérarchie, mais vu comme milieu de croissance. On ne touche pas tellement le point de vue de la hiérarchie dans une théologie mystique. On voit avant tout le mystère de l'Église, nous donnant les sacrements, les trois nourritures. Pour le milieu de croissance qui nous donne les trois nourritures. Les trois nourritures, puisqu'il s'agit de croître, il faut se nourrir. Et les trois nourritures, c'est la parole de Dieu, l'Eucharistie et l'accomplissement de la volonté du Père. Et c'est pour ça que l'Église existe. Bon. Quand des quantités de jeunes aujourd'hui vous demandent pourquoi l'Église existe, très peu répondent par les trois nourritures. J'ai jamais vu. L'Église existe, et l'Église existe lorsqu'il y a les trois nourritures données au peuple de Dieu. La parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Et c'est très important de voir ces trois nourritures dans une perspective, il faut bien, œcuménique. Quand vous comparez l'Église orthodoxe, l'Église catholique, l'Église réformée et l'Église catholique, vous voyez que c'est à partir des trois nourritures qu'on peut le mieux comprendre comment il doit y avoir cette convergence. Par le désir au moins, vers l'Église qui a la plénitude de ces trois nourritures, l'Église catholique. Et vous le montrez là, non pas d'une manière apologétique, mais d'une manière mystique, ce qui est beaucoup mieux. c'est-à-dire pas les trois nourritures. Et dans ces trois nourritures, vous faites comprendre pourquoi il y a une hiérarchie. C'est si difficile aujourd'hui à comprendre ça. Pourquoi il y a le pape ? Pourquoi il y a des évêques ? Pourquoi il y a des curés ? Ben, les curés, on dit encore à la rigueur. L'Eucharistie, puis la confession. Oui, c'est très vrai, mais il y a aussi la volonté du Père qui nous est transmise. Les starets, la paternité spirituelle, ça, le milieu divin, et le retour vers le Père. Alors, tout le mystère de la très sainte Trinité vue comme ce retour vers le Père, vers cette attraction vers le Père. Et tout ce que saint Thomas donne dans le Te Deum Uno, le reprendre dans la vision du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, à travers toute la grande théologie des appropriations, qui ne peut se faire que dans une théologie mystique. Alors j'efface. Oui, il y a du pain sur la planche. Hein. On va voir quelque chose de très particulier. Il faudra rester assez longtemps pour tout voir. Et la théologie, le théologien doit avoir un sens de la théologie biblique, un sens de la théologie d'Église, la théologie scientifique de saint Thomas. Ça, c'est vrai. C'est très important. C'est surtout là où il faut l'enseignement. Parce que c'est la chose la plus difficile. Puis la théologie mystique. La théologie mystique, si on vit un peu sa vie chrétienne, on la fait tous. Mais c'est quand même bon que ce soit explicité, soit dit. L'évangile de saint Jean joue un rôle très important dans le mystère de la théologie mystique. On pourrait même dire, je vous ai donné cet ordre, on pourrait même dire que la théologie mystique, puisqu'il s'agit de regarder l'amour, implique diverses manières d'être explicité. Autant la théologie scientifique a une arête précise, c'est très difficile de modifier l'ordre de saint Thomas en théologie scientifique. J'essaie toujours d'ébranler. Et je retombe tout le temps sur saint Thomas. Tandis que la théologie mystique, il y a diverses manières, très nettes. Je vous ai donné ça quand j'ai dû enseigner la théologie mystique à Fribourg. Je ne peux pas enseigner si je ne vois pas un certain ordre dans l'enseignement. C'est impossible. Alors j'ai écrit tout de suite à quelqu'un qui est devenu illustre, le cardinal Philippe, qui était à Rome, qui n'est pas un frère, mais qui est un frère spirituel au plan dominicain, qui n'est pas un frère selon la chair et le sang. Et il enseignait longuement à Rome la théologie mystique. Alors je lui ai écrit, c'est dommage que je n'ai pas gardé la lettre, je lui ai écrit en lui disant, comment enseignez-vous la théologie mystique, puisque vous l'enseignez depuis déjà 20 ans. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre point de vue. Alors il m'a dit, je sais pas. Je prends un traité de saint Thomas et puis je l'applique. Oui, Garrigou Lagrange. Était resté dans la perspective de Garrigou Lagrange. Oh, moi, je ne peux absolument pas rester dans la perspective de Garrigou Lagrange. Je l'aime beaucoup, mais il a joué un rôle très important, mais très apologétique. Alors, c'est pas du tout ça que le monde attend aujourd'hui. Il attend une théologie mystique. Alors, on peut faire une théologie mystique en se servant de l'évangile de saint Jean. Tout ça, ça se complète. Je peux lire l'évangile de Saint Jean d'une manière mystique. Je peux lire toute l'écriture d'une manière mystique. C'est-à-dire découvrir les gestes, les dons et les personnes. Découvrir l'amour. Je peux, puisque toute la théologie mystique est tournée, alors là, c'est tout le temps, c'est le Christ. C'est le Christ qui est regardé comme centre. Pas de théologie mystique, s'il n'y avait pas le Christ. Ça, c'est sûr. C'est le Christ qui est le noyau de toute la théologie mystique. Parce qu'il est le modèle, il est la fin. Or, parmi tous les évangiles, l'évangile de Saint Jean est l'ultime en théologie mystique, puisque c'est l'amour qui commande tout. C'est donc quelque chose d'ultime. Saint Jean, c'est l'évangile de l'aigle, c'est l'évangile de l'amour. Donc, l'évangile de Saint Jean doit m'aider à entrer en théologie mystique, d'une manière autre que ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé, parce que l'évangile de Saint Jean, je l'aimais beaucoup, j'ai essayé de découvrir dans l'évangile de Saint Jean un ordre. Mon bon professeur d'exégète au Solchoir, qui est mort, un dominicain, Père Synave, que j'aimais beaucoup, il nous a fait trois cours sur Saint Jean. En disant, Saint Jean, pour un exégète, c'est difficile, difficile. C'est vrai que de son temps, on traitait très peu Saint Jean. Et il n'avait sûrement pas eu de professeur qui lui enseignait Saint Jean. Depuis, il y en a beaucoup plus. On peut dire que depuis, ce n'est plus seulement Saint Paul. Avant, tout était Saint Paul. La formation de tous les prêtres dans les séminaires, c'est Saint Paul. C'est très bien. Mais Saint Jean va plus loin. Nous donne quelque chose de plus. C'est l'ultime. Même au point de vue des dates, hein, c'est ça qui est très curieux. C'est l'ultime. Aujourd'hui, les meilleurs exégètes de Saint Jean affirment que l'évangile a été écrit après l'Apocalypse. Ce que je crois. L'Apocalypse a permis à Jean d'écrire son évangile. C'est pour ça que les deux sont toujours en conjonction. Alors le Père Synave commençait son cours sur Saint Jean en disant, « Eh bien, mes chers frères, ne cherchez surtout pas l'ordre dans l'évangile de Saint Jean. Il n'y a rien de tel pour un bon étudiant de dire, « Eh bien, je chercherai l'ordre dans l'évangile de Saint Jean. » Bon, les cours, ça sert à deux choses. Ou nous mettre en opposition sainte et légitime, ou au contraire, d'assimiler. Mais dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui manque, on veut le compléter. Et alors il prenait cet exemple, que j'ai retenu parce qu'il était très net. Tenez, j'ai reçu une dissertation assez longue d'un frère, disait pas qui, d'un frère. On m'appelle au téléphone. C'était le Solchoir de Caen, de Belgique. On m'appelle au téléphone. De ce temps-là, il y avait un téléphone par étage. Chaque père n'avait pas son téléphone. C'est un progrès sensationnel, ça. Mais, c'est-à-dire que c'est une distraction nouvelle. Chaque père avait son... Tout voilà, au contraire, l'étage. Là, il y avait le morse. Et alors, quand on appelait, on y allait le plus vite possible. Par charité pour celui qui appelait. Pour ne pas faire de trop longues communications. Sa fenêtre était grande ouverte. Et le Solchoir Belgique, avec le vent du nord, il quelquefois était d'une force très grande. Il s'en va à toute vitesse, puis revient courant d'air. Alors en revenant, toutes les feuilles s'en vont dans tous les sens. Et il avait oublié de voir que l'étudiant qui avait fait cette dissertation avait oublié de noter la pagination. Alors, le bon père se trouve devant ça, il dit, chaque page est intelligente, mais je ne vois pas l'ordre. Bien, ça c'est l'évangile de Jean. Alors voyez, il avait confondu le souffle de l'Esprit Saint et le souffle du vent du Nord. C'est une petite confusion, pas grand chose. Parce que je crois que dans l'évangile de Saint Jean, il y a un ordre très mystérieux. Oh, il peut y avoir des petites bavures, c'est pas gênant. Des petites répétitions, c'est pas gênant. Saint Jean qui écrit sur Jésus, vous comprenez ? C'est fou. Il fallait que tous les autres soient morts pour que Saint Jean puisse dire qu'il était le disciple bien-aimé. C'est évident. Comment voulez-vous du vivant de Pierre qui puisse dire ça ? Ça, c'est la signature. Ça posait problème. C'est évident, ça posait problème. Mais dès qu'on comprend ça du côté de l'amour, on comprend tout de suite. Saint Jean communique les secrets. Et l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de l'amour qui nous communique les secrets. Et c'est pour ça qu'en théologie, que, au point de vue exégétique, c'est très très difficile. Eh bien, quand vous essayez de comprendre l'ordre qui existe dans l'évangile de Saint Jean, je me suis posé la question, hein, pendant des années, en relisant l'évangile de Saint Jean. Donc, sans aucun a priori, qu'est-ce qu'on découvre ? Le prologue, évidemment. Quelque chose de très étonnant. Puis, la fin de l'Ancien Testament. C'est très net. La fin de l'Ancien Testament, c'est, vous le voyez bien, Jean-Baptiste au désert. La visite de Jésus et les premiers apôtres. D'où commence la vie apostolique de Jésus, chapitre 2. Chapitre 2, c'est un repas. Hein ? Du chapitre 2 au chapitre 6, exclu. Du chapitre 6 au chapitre 12, exclu. Du chapitre 12 au chapitre 20. Vous avez donc un prologue important, le terme de la vie de l'Ancien Testament et le point de départ du Nouveau. Jésus commence sa vie apostolique ayant choisi des apôtres. C'est merveilleux pour nous. Jésus n'a jamais fait sa vie apostolique seul. C'est merveilleux. Ça, vous ne le voyez pas du tout comme ça avec les synoptiques. Saint Jean rectifie des tas de choses que les synoptiques ne disent pas. Et comme Saint Jean, c'est l'évangile de l'amour, il nous montre tout de suite que dans le Christ, il y a toujours cette double dimension. L'amour à l'égard du Père, l'amour à l'égard de ses frères. Et sa vie apostolique, il la commence avec des amis. Les repas, c'est pas étonnant. L'Ancien Testament est ponctué par les sacrifices, le mystère de l'adoration. Le Nouveau Testament, dans sa fine pointe johannique, est ponctué par les repas, la charité fraternelle. Les repas, c'est la charité fraternelle. Vous savez bien, il y a des repas différents, il y a des repas monastiques, qui sont en silence. Il y a des repas, au contraire, plein de joie. Ou alors on peut s'exprimer, on peut chanter, on peut boire. Bon, le repas. Alors, ce qui est très curieux, et c'est très net, il s'y repent encore. Et il s'y repent encore. Il y a quand même un petit signe. Et dans la dernière, cette partie, il y a encore un repas. Et dans la dernière partie, il y a encore un repas. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 repas. Tout l'évangile de Jean est eucharistique. C'est extraordinaire. Donné d'une façon symbolique. Toute une théologie. Ça, c'est la première chose. Ça vous donne tout de suite des piliers hein, importants à voir. Puis qu'est-ce que vous voyez entre les deux? Si vous faites un tout petit peu attention. Cana. Le point de vue, Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Nicodème. Un dialogue, un geste, Cana. Un geste, un dialogue. Deux gestes et un dialogue. Deux gestes avec des paroles. Ce qui est important, c'est le geste du Christ. C'est ça qui a été le plus impressionnant. Quand Jésus a pris le fouet, dans le temple, il a eu cette espèce de courage invraisemblable, prendre le fouet. Lui qui n'avait aucune autorité. Il les a chassés. Et puis, Nicodème, c'est le grand dialogue. C'est très beau. Jésus face à son peuple. Il vient en premier lieu pour les brebis d'Israël. Les trois grands gestes de miséricorde. Trois grands gestes de miséricorde. Cana, le temple et Nicodème. Entre deux, une petite dispute où Jésus n'est pas là. La jalousie des disciples de Jean-Baptiste par rapport à Jésus. Par rapport aux disciples de Jésus. C'est intéressant de voir que la jalousie est là.